Salut. Comment ça va?
Je suis Thomas Guillot, vous êtes sur The Locomotion. C'est le 7e épisode et aujourd'hui, on reçoit Alice Butarlin. Salut Alice.
Salut.
Ça va?
Ça va.
Merci vraiment d'être venu directement dans les studios de Radio Panique, au fin fond de Saint-Josse. Enfin, au fin fond de Saint-Josse, très accessible en transport en commun. Et donc, Alice Butarlin est autrice du livre Les Heures Défuntes, qui est sorti à la maison d'édition Le Gospel. J'allais dire label indépendant, mais c'est un livre, donc du coup, ça sort dans une maison d'édition. On en parlera un peu plus tard. L'idée, le concept du livre, c'est plein de chapitres qui parlent de musique, mais pas que, et qui ne sont pas forcément connectés les uns avec les autres, mais on en parlera un peu plus tard. Et l'idée, le principe de l'émission, cette fois-ci, c'est qu'au lieu d'avoir un musicien ou une musicienne, c'est Alice qui va nous parler de son livre et on va écouter la musique qui est dans le livre. Parce qu'évidemment, il y a plein de musique dans le livre, c'est super chouette. Donc voilà, on va commencer avec.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et c'est la version à Maida Vale, au studio iconique de la BBC. Pour revenir à ton livre.
Oui.
Il s'appelle Les Heures Défuntes.
Oui.
Et c'est ton premier livre.
Oui.
En tant que tel. Oui. C'est pas la première fois que tu écris, évidemment.
Non, ça fait un petit moment que j'écris, mais. Plutôt dans un ton journalistique. J'ai écrit sur la musique pour plusieurs médias. Et donc là, c'est la première fois que je faisais quelque chose de plus libre, qui mêlait aussi bien de la fiction que des choses plus théoriques, que des moments très journal intime. Je me suis rien refusé, quoi, avec ça. Et justement, j'essayais d'aller un peu... à contre-courant du format journalistique que j'avais, enfin, sur lequel je travaillais avant, quoi, pour des médias plus classiques.
À la fin du livre, il y a le petit mot de l'éditeur qui travaille avec toi. Et donc, c'est le premier livre des éditions, de la maison d'édition Le Gospel, parce que l'histoire de secret de Kate Bush est sortie genre un mois après.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Bah en fait, ce livre, il a été Il a été écrit en sachant qu'il allait être publié dans cette maison d'édition, le Gospel. Donc Adrien Durand, qui a créé la maison d'édition, m'a dit, voilà, j'ai ce projet. Le Gospel qui était un fanzine, qui est toujours un fanzine de musique. Et il m'a dit, voilà, j'aimerais créer une maison d'édition annexe à ça. Et il m'a proposé d'écrire ce recueil sur la musique en me laissant libre sur le ton et le format. Mais ça a quand même été assez collaboratif entre nous. Je venais avec des idées, j'écrivais des textes au fur et à mesure, je lui envoyais et puis on discutait un peu de ça. Et donc ça s'est fait comme ça de manière assez spontanée. Je pense que c'est chouette aussi d'être au début de ce projet de maison d'édition en même temps que la sortie du livre, quoi. Je pense que son souhait, c'est de publier des œuvres un petit peu inclassables qui parlent de musique, mais qui parlent aussi surtout de culture underground, quoi.
Ok. Donc pour résumer à l'auditeur, Les Heures des Fins, c'est 14 chapitres, enfin 15 si tu comptes le tout petit dernier qui s'appelle Mercredi des Cendres.
Ah oui, le poème.
Le poème à la fin. Et un chapitre central qui est un peu plus long que les autres.
Ouais.
Et donc la particularité de chaque chapitre, c'est que dans chaque chapitre, il y a un artiste, on va dire, un ou une artiste mise en valeur. C'est pas tout le temps sur la musique, mais c'est quand même souvent sur la musique.
Ouais.
Et donc du coup, là, le premier morceau qu'on a mis, c'était Broadcast. Et pourquoi particulièrement Broadcast ?
Ben, c'est intéressant parce que c'est le premier texte que j'ai écrit, en fait, de ce recueil. Mon idée de départ, c'était de parler de musique du rêve et de l'inconscient, parce que le territoire du rêve m'intéressait pour plein de raisons. Et Broadcast, c'est le premier groupe qui m'est venu à l'esprit quand je me suis demandé quel genre de musique j'avais envie de convoquer ici. C'est un groupe dont la musique me suit constamment, qui est toujours dans mes oreilles ou dans mes enceintes. C'est un groupe, je pense, qui permet aussi beaucoup de liberté narrative à l'écoute, quoi. C'est un groupe qui convoque beaucoup d'images et en fait quelque chose de très onirique, tout simplement. Pour moi, c'est un peu la quintessence de la musique du rêve, quoi.
Okay. C'est intéressant que tu parles de rêve parce que moi, j'ai une relation extrêmement compliquée avec mes rêves. Pas si compliquée, c'est surtout que je ne me rappelle jamais de mes rêves. Et donc, du coup, ça veut dire que toute la littérature, le cinéma qui parle de rêves, ça a tendance à me passer un peu au-dessus.
Ça te frustre ?
C'est une frustration intense, parce qu'à chaque fois que je me rappelle de mes rêves, ils sont d'une banalité à toute épreuve. Ce genre, par exemple, si je me rappelle d'un rêve, il sera très court et ce sera juste moi dans une allée de supermarché qui achète quelque chose de parfaitement normal.
Ouais.
Voilà, c'est vraiment... très terre à terre, et je me rappelle une fois tous les 6 mois. Et donc, du coup, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui crée un livre ou qui fait un film sur les rêves et qui a toujours une imagination débordante à chaque fois, je suis extrêmement frustrée.
Ouais. Après, voilà, je pense qu'on ne pourra jamais aller vérifier si les gens qui te racontent leurs rêves sont en train de te mentir copieusement et qu'en fait, ils rêvent du même supermarché que toi et des mêmes slips sales et du même verre de jus d'orange qui n'a pas été lavé la veille. Peut-être qu'en fait, tous les rêves sont d'une banalité confondante, quoi. Mais écoute, moi, ça dépend, hein. J'ai des périodes où j'ai des rêves plus fleuris que d'autres. mais là, en l'occurrence, j'ai écrit ce livre à une période où je n'allais pas bien du tout psychologiquement. Je pense que ça peut se... se retrouver. Et d'ailleurs, quand je relis certains passages, là, je me dis, ah ouais, quand même, ça n'allait pas fort, quoi. et, Et moi, enfin voilà, dans les moments de dépression, ce qui me sauve, c'est la musique et le sommeil, quoi. Donc je dors beaucoup, j'aime beaucoup dormir, et c'est un lieu où je me sens bien et libre. Et donc le rêve, j'étais un peu partie de cette idée que le rêve était un des derniers territoires de liberté.
Chers auditeurs, est-ce que vous avez deviné d'où vient ce morceau ?
Mystère.
Donc d'où vient ce morceau, Alice ?
Il vient de la bande originale des Sims.
Deux ?
Les Sims 2.
Oui,
oui.
Sims 2.
Oui, 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 oui. Les Sims 2, voilà, un jeu auquel j'ai beaucoup joué en primaire, en école primaire. D'ailleurs, ouais, un des seuls jeux vidéo vraiment... auquel j'ai joué sérieusement. Et voilà, comme beaucoup de gens de ma génération, moi j'ai 27 ans, et voilà, je suis née en 95.
En 95, comme on dit ici.
Comme on dit ici. Et oui, oui, voilà, c'est un jeu qui a été très populaire au début des années, vers 2007, quoi, un truc comme ça.
Et ce qui est intéressant avec la bande originale, c'est qu'elle est composée par Mark Mothersbaugh.
De Devo.
Voilà.
Ouais, non, c'est marrant. Enfin, ça m'amusait de revenir sur cette BO. Et je le dis dans le livre, que, en plaisantant, que c'est un des albums que j'ai dû le plus écouter de ma vie, mais un peu par inadvertance. Et c'est des morceaux qui se sont imprégnés à vie. Dans mon cerveau, sans que j'ai quoi que ce soit à dire. J'ai pas donné mon avis. Et en fait, j'adore Devo. J'ai découvert Devo plus tard, quoi. J'écoutais pas Devo à 12 ans. Enfin, si, mais, mais je faisais pas exprès. D'ailleurs, c'est ma mère qui m'a fait découvrir Devo, parce qu'elle est fan de Devo. Donc, shout out à ma mère. Donc je parle de ce phénomène de jouer à un jeu vidéo pendant des heures, pendant des années, et puis des années après, se rendre compte de ce qu'on était vraiment en train d'écouter à cette époque-là, et puis le sentiment de nostalgie, quoi, qu'il y a avec ça.
C'est vrai. Parce que Mark Mothersbaugh, il a continué, après Devo, il a fait plein de bandes originales de films d'animation notamment. Il a même fini par faire la musique de Marvel, genre il a fait un Thor, par exemple.
Je ne savais pas.
Voilà. Non, parce que c'est rigolo, parce que quand tu vas voir sa discographie sur Spotify par exemple, il a fait plein de bandes originales de films d'animation assez récents et assez gros, et Thor Ragnarok. Et aussi un truc de Taika Waititi, parce que j'imagine qu'ils sont copains maintenant. Donc il a trouvé sa branche.
Oui.
Et on est fiers de lui.
Oui, bravo Marc.
Après avoir fait... Et les morceaux de Sims 2 ont des tonnes d'auditeurs. Genre vraiment, c'est incroyable. Il doit se faire son beurre jusqu'à la fin de sa vie avec les morceaux de Sims.
Oui. Je crois que les gens adorent revisiter... cette petite capsule temporelle. Et je crois que oui, cet album, cette BO, et très écouté par des gens qui ont envie de se concentrer pour travailler ou d'être dans une... Comment dire ? Oui, enfin, avoir un album qui accompagne une activité un peu répétitive. Et puis oui, voilà, juste cette sensation étrange de nostalgie.
Tu finis sur, avec un chapitre sur Elliott Smith.
Ouais.
Que tu décris comme quelqu'un qui semble flotter dans l'interstice qui sépare le rêve et la réalité. Alors déjà, on aime beaucoup le mot interstice, donc on est content. Ah. Et... mais voilà, pourquoi Elliott Smith ? Pourquoi Elliott Smith ?
Bah.
Parce qu'il est dans le livre, ce qu'il faut savoir, ouais. Chers auditeurs, c'est qu'il est lié au philosophe Kierkegaard.
Oui, oui, oui. Bah, pourquoi Elliott Smith ? Bah, là encore, c'est un musicien qui est très important pour moi, vers lequel je me tourne beaucoup dans mes propres moments de flottement, dans mes moments de vide. Je trouve que c'est un musicien qui représente parfaitement ce vide qu'il y a en chacun d'entre nous. Et en même temps, comment dire, c'est dur de parler d'Elliott Smith en plus parce que je crois que c'est quelqu'un qui est important pour beaucoup de gens et je voudrais pas ternir toute la fragilité de sa musique et puis tout ce qui aussi ne s'explique pas parce que c'est ça qui est beau aussi, c'est cette émotion qu'on ressent. Et cet attachement qu'on peut avoir à certains artistes sans vraiment pouvoir se l'expliquer. Je crois qu'avec Elliott Smith, il y a un peu de ça. J'ai l'impression, quand j'écoute certaines de ses chansons, quand je lis certaines de ses paroles, d'avoir un petit peu des révélations. Et c'est des révélations qui sont toujours très subtiles. C'est des choses aussi qu'il faut parfois relire plusieurs fois. Des choses avec beaucoup de sous-textes. Et puis juste un sens de la mélodie qui me bouleverse. Je crois que ouais, enfin c'est vraiment ce que j'aime dans la musique, c'est des choses comme ça très nuancées.
Ouais. Et justement donc dans le livre il y a donc tout un chapitre sur Elliott Smith qui est plutôt court, donc ça se lit vite, mais et donc du coup là on va passer à un morceau, le morceau dont tu parles dans le livre, c'est A Fond Farewell, qui était sorti sur son premier album posthume qui s'appelle, ouais, From Basement on the Hill.
Oui,
c'était vraiment l'album qu'il avait enregistré juste avant de mourir, je crois.
Oui, c'est ça.
Et donc A Fond Farewell, tu dis que c'est que pour toi tu vois sa déception de ne jamais parvenir à être l'homme qu'il désire devenir, résigné devant son propre reflet, comme une sorte d'inconnu.
Oui.
C'est très beau. Donc on va passer le morceau, comme ça vous allez pouvoir...
And why? 'Cause you took apart a picture that wasn't right. Pitch burning on a shining sheet. The only maker that you wanna meet. A diamond in a living room. Whose shadow paces the floor. I'll take you out in the open door. This is not my life. Just a fond farewell to a friend. It's not what I'm like. It's just a fond farewell to a friend. I couldn't get things right. A fond farewell to a friend. You said, really, I just wanna dance. Good and evil match. It's a great romance.
psychic pain. If it'll slow down my higher brain, things full of disappearing ink, vomiting in the kitchen sink, disconnecting from the missing link. This is not my life, it's just a fond farewell to a friend. It's not what I'm like, it's just a fond farewell to a friend. I couldn't get things right. I see you're leaving me and taking up with the enemy. The cold comfort of the in-between, a little less than a human being, a little less than a happy high, a little less than a suicide. The only things that you really try. This is not my life, it's just a fond farewell to a friend. It's not what I'm like, it's just a fond farewell to a friend. You couldn't get things right, a fond farewell to a friend. This is not my life, to a friend.
Elliott Smith, wouh, Elliott Smith, si tu nous écoutes, envoie un message, ouais, on t'aime,
oui,
on va lire un extrait de ton livre, enfin, tu vas lire un extrait de ton livre, ne vous endormez pas, je vais faire une petite transition juste avant, si jamais j'ai vu que t'as chuté un peu sur le 95 ou 95, il faut savoir que l'émission est aussi retransmise sur Radio Campus Paris, donc du coup, tu peux choisir 95 ou 95 à ton gré, si jamais il y a des chiffres. Donc voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des chiffres? Je ne crois pas qu'il y ait de chiffres.
Non, je ne crois pas qu'il y ait de chiffres.
J'ai fait exprès, quoi. Ouais, pour ne frustrer personne. J'avoue avoir déjà pensé à me promener avec des bouchons en mousse dans les oreilles, bien planqués sous des mèches de cheveux. Mais la perspective de développer une énième addiction aux protections auditives le jour, alors qu'elle m'obstruait déjà la nuit, m'avait terrorisée. Je n'aurais qu'à accepter d'être un peu bousculée par le vacarme inhérent à l'espèce humaine. Le jeu de va-et-vient d'isolation forcée subi ces deux dernières années a forcément eu un impact sur ma perception de l'autre et de l'ailleurs, renforçant les mécanismes de paranoïa qui surgissent à l'aune d'une solitude anormalement longue. Là où certaines pensées avaient le loisir de se briser contre des visages qui les déviaient dans des dialogues nécessaires, elles étaient maintenant livrées à elles-mêmes pour devenir des monstres sans interlocuteur. Tout dehors m'a à nouveau semblé hors de portée. Ou alors c'était moi qui voulais y être aveugle. Avant que ne déferle le flot d'informations insensées avec lequel nous cohabitons désormais, j'avais entrepris de faire la paix avec le bruit. Aujourd'hui, je me remets à le fuir, comme si la négation allait figer le temps dans une statue utopique. Je débranche tous les câbles, éteins les écrans pour ne plus accéder aux canaux de l'angoisse. Je ne reçois les sursauts de l'actualité que par des bouches dont le mouvement des lèvres paraît téléguidé. Et je replonge dans des œuvres qui existent en dehors des albums marchandises qui se vendent comme des sachets de nouilles. Wynne's Poem n'est ni un refuge, ni ne véhicule un message auquel je m'identifie. Il n'est qu'un instant de grâce, emmêlé dans les branches d'un arbre solitaire. Quelque part dans les mutations d'une maladie généralisée, entre hébétement et psychose, on a cherché dans la musique un remède, sa forme réduite au contour d'un cachet de Xanax. Mais à force d'y voir un dérivé d'anxiolytique, on en a oublié la poésie. On a retiré toutes les nuances psychologiques, les déviations, la laideur, pour créer les parfaits outils de sédation, livrés avec des notices plus détaillées que le produit qu'elles accompagnent. L'art, qui devrait offrir des pistes de réflexion personnelle, devient alors aussi automatisé que le reste, puisque ses œuvres étouffent sous la volonté d'uniformisation des émotions. À mesure que la musique se déshumanise, elle voudrait nous faire croire que la sensibilité est une vulgaire monnaie d'échange dont l'expression se fait de plus en plus économique. Mais comment ressentir quoi que ce soit devant des blocs de béton déguisés en Charlotte aux fraises ? À l'intersection de la catharsis et de la recherche scientifique, Phil Elverum a le bon goût de laisser à ses œuvres le bénéfice du doute. Elles sont autant une plongée dans ses cheminements intellectuels conscients que de vastes labyrinthes oniriques. En 2021, il sortait Foghorn Tape, sous le nom de The Microphones. Probablement la meilleure réponse à une industrie de la musique essoufflée. 100% background noise that contains no music. C'est comme cela qu'est présenté cet album d'une demi-heure, d'une note de basse ralentie pour reproduire le son d'une corne de brume sur un bruit blanc de cassette. Cette même basse dépitchée que l'on entendait au loin sur The Glow Part 2, sorti en 2001, est ici au centre de la pièce, comme si nous enjoignait à porter notre regard sur les micro-détails. En désossant les décors qu'il a lui-même façonnés, revenant sans cesse sur son passé, il maintient son travail en mouvement, fluctuant au rythme des saisons. Et quel beau pied de nez au règne du storytelling sur l'art que de proposer cet album sans visage, d'un ascétisme exotique en ces temps de gloutonnerie sonore. Que reste-t-il à faire aujourd'hui sinon sculpter le silence qui nous fait défaut ? Reconstituer un territoire pour y placer un calme de synthèse. Si les AirPods réduisent activement les bruits ambiants, Phil Elverum augmente les voix de l'arrière-plan pour qu'elles nous chuchotent leur vérité. Et dans les poèmes du vent ou l'écho dramatique des signalisations maritimes, je me coupe un peu du monde pour mieux le retrouver.
Comes like music on the wind. The vibe.
C'est un morceau qui s'appelle « And the Phoenix is Reborn » par le groupe Sabbath Assembly. Et donc, du coup, comment on en est arrivé là ? C'est que dans le cinquième chapitre, probablement un de mes préférés du livre, la jeune Alice a 11 ans et atterrit ouais. aux États-Unis.
Et oui, 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 j'ai eu 11 ans. J'avais voulu évoquer ce souvenir d'un été passé dans une famille américaine.
Dans le Wisconsin.
Dans le Wisconsin.
Dans le Wisconsin. Et donc, du coup, Sabbath Assembly, c'est un groupe que je ne connaissais pas du tout et qui a une histoire extrêmement intéressante. C'est-à-dire que ça vient d'une sorte de congrégation chrétienne qui met sur le même plan Jésus et Satan, c'est quelque chose comme ça.
Ouais, c'est un groupe religieux des 60s à Londres, enfin une secte. donc la Process Church, qui est devenue un peu mythique et qui a influencé beaucoup d'artistes et de musiciens, surtout sur le plan visuel. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup de graphistes. Et d'artistes qui faisaient partie de ce groupe religieux. Et donc, toute l'imagerie est vraiment super belle. Et donc, c'est fascinant. D'ailleurs, il y a un super documentaire qui est sorti, que je vous conseille de regarder, sur la Process Church. C'est fascinant, ça. Et donc, oui, Dave Nuss, donc, de Sabbath Assembly. Son projet, c'était d'enregistrer des chants sacrés, quoi, qu'il avait retrouvés de cette Process Church, parce qu'il avait rencontré Timothy Wiley, qui faisait partie de la secte, et qui prévoyait de sortir un bouquin sur ça, donc Love, Sex, Fear, Death, et du coup, qui lui a filé un ouvrage d'hymne sacré. Et voilà, et donc il a mis ça en musique. Et ouais, c'est assez beau. Enfin, tout n'est pas génial hein, de Sabbath Assembly. Oui,
le premier album est bien.
Mais
et après...
ouais, c'était. Ouais. Moi, j'aime bien ça. Mais donc, ouais, là, sur ce chapitre-là, j'aborde un petit peu ma découverte d'un certain puritanisme américain et la famille la famille WASP
typique
et puis ce que j'en pensais moi à 11 ans qui connaissais pas tout ça quoi. Et ouais,
est-ce que tu regrettes de pas avoir monté ton groupe de sludge?
Bah écoute, je me dis que j'ai encore le temps, que c'est encore possible. Si quelqu'un veut monter un groupe de sludge avec moi, je suis partante. Il faut juste que je retravaille un peu mes skills en guitare parce que je suis pas encore, c'est pas encore prêt là.
Okay.
Ouais, je m'acharne, mais je sais pas si j'aurai un quelconque talent un jour dans la musique.
J'ai pas l'impression que le sludge a bien pris à Bruxelles.
Ah, bah alors peut-être que je vais devoir arranger ça.
Voilà, c'est ça, il faut.
Je vais faire le meilleur groupe de sludge bruxellois qui a jamais existé.
Voilà, en attendant le retour du magasin 4 dans un lieu non défini encore,
ah oui.
J'imagine.
Ah oui, on l'attend. Ouais.
On l'attend. J'aimerais juste parler vite fait du chapitre central.
Voilà,
dans le speech de la maison d'édition, Il y a marqué, y a des li en lien avec, t'es mis en lien avec Lovecraft, Edgar Allan Poe et Otessa Moshveg, voilà. Et donc du coup, j'imagine que c'est surtout en lien avec ce chapitre-là, parce que c'est le plus littéraire, on va dire.
Oui, c'est vrai. Donc en fait. Moi, j'ai le syndrome de Raynaud. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un problème de circulation sanguine qui fait que le sang a du mal à circuler et donc les extrémités du corps n'ont plus de sang qui circule. Ce qui fait qu'on a les mains et les pieds qui deviennent bleus, blancs, violets, qui sont totalement engourdis, qui gonflent aussi. Les mains peuvent tripler de volume, ça, c'est sympa. Voilà, c'est un truc assez chiant. Et en fait, j'avais envie de parler de ça. Et j'avais eu une idée de faire les variations sur Raynaud. Donc, plusieurs nouvelles fantastiques qui partaient de cette déformité des mains et des pieds. Essayer de m'amuser avec ça, de m'amuser d'un truc qui me faisait quand même souffrir et qui me complexe pas mal, quoi. et me dire, bon, bah écoute, je vais m'amuser, je vais en faire des mains qui se baladent, Ouais, voilà. Ouais. Et donc, voilà, donc ça, c'est trois nouvelles qui sont au milieu du livre, qui sont, ouais, plutôt fantastiques. Et là, donc, on est, ouais, c'est de la fiction. C'est le moment, la petite pause de fiction au milieu de la non-fiction.
Oui.
Voilà.
C'est une belle ambiance, bien, ouais. bien glauque, bien gothique.
Ouais, comme on aime.
Donc c'est fini pour The Locomotion. Merci Alice d'être venue.
Ben merci beaucoup, j'étais très contente d'être là. Merci.
Pour réécouter le podcast, si vous écoutez ça sur Radio Campus Paris. Vous pouvez aussi écouter ça sur le site internet de Radio Campus Paris et l'écouter en replay sur Spotify, mais un peu plus tard. Spotify, ils ne méritent pas d'avoir les replays en direct. Ils les ont quelques semaines après. Si vous voulez avoir des informations à propos de l'émission, vous pouvez vous abonner à notre compte Instagram de locomotion.radio ou vous abonner à la newsletter sur Substack. Voilà, donc nous, on est sur Substack pour si vous préférez lire qu'écouter, les questions sont retranscrites là-dessus et elles sont diffusées genre quelques jours après la diffusion sur Radio Panique. Donc si vous préférez lire, attendez un petit peu, vous pourrez lire les réponses de Alice Butarlin. Est-ce que tu veux nous parler du prochain morceau? C'est une personne qui s'appelle Lila Eija.
Oui, je voulais vous parler d'une amie à moi, Lila Eija. Et voilà, je voulais vous conseiller, enfin vous faire écouter un de ses morceaux de son premier EP Yo, qui est sorti en 2021. Ouais, moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle compose et elle enregistre tout chez elle. Et puis ouais, elle joue tous les instruments et donc avec une pédale loop, elle construit ses morceaux. Et ouais, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et aussi, je voulais vous parler de sa sœur qui est photographe. Mmh. S'appelle Marie Mauve et dont les photos m'inspirent beaucoup. Elle fait de la photo expérimentale argentique. Donc elle joue beaucoup avec des différentes des comment ça s'appelle. Des pellicules périmées, différents bains pigmentés, la double exposition. Et donc, elle fait des choses vraiment, vraiment très belles et très étranges aussi. Et ces photos, je sais qu'en ce moment, il y a des tirages qui sont disponibles à la galerie Arts Factory à Paris. Mmh. N'hésitez pas. Et puis sinon, vous pouvez la trouver sur Internet, Marie Mauve. Donc voilà, je voulais en parler. Voilà, deux amies à moi qui font des choses différentes chacune, mais dont le travail m'inspire beaucoup et que je vous conseille. Voilà. Okay.
Des bruxelloises ou des parisiennes?
Parisiennes.
Parisiennes.
Ouais, donc là, voilà, on écoute Lila Eija et le morceau, c'est NF34.